jour est arrivé, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé,
et le jour de la victoire est arrivé.
Par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau. Et il vit à jamais, couronné de gloire et de tout.
Alors nous aurons maintenant quelques lectures en relation avec la prédication que Roger va apporter tout à l'heure. Et en fait, cette prédication va faire suite à deux prédications qu'il a déjà données. C'était les 30 mars et 6 avril sur le livre de Ruth de l'Ancien Testament. Alors les deux premières prédications portaient sur les chapitres 1 et 2 du livre de Ruth. Aujourd'hui, nous aurons une prédication sur le chapitre 3. Alors, je me permets de rappeler que le livre de Ruth est une histoire vieille, ancienne, comme on voudra, que nous sommes là au temps, après la période de Salomon, vers 1150 avant Jésus-Christ. Le livre de Ruth n'est ni prophétique, ni historique. C'est un livre de l'Ancien Testament qui nous replonge un peu dans la vie du peuple d'Israël de l'époque. Et son intérêt est de nous rejoindre dans notre vie habituelle, dans notre vie journalière, et aussi son intérêt, c'est qu'il est profondément christologique. C'est-à-dire qu'il annonce, il donne déjà une image de l'œuvre de Christ. Alors pour ceux qui n'étaient pas là lors des prédications des deux premiers chapitres, je vais donner un résumé de cette histoire, parce que c'est utile, je crois, pour comprendre la suite. Alors, nous sommes dans une période où la famine règne en Israël. Et de ce fait, certains émigrent. Le peuple d'Israël, en particulier Elimelec et Naomi, un couple qui habite Bethléem, émigrent avec leurs deux fils du côté du pays Moab. Survient alors le décès d'Elimelec. Quant aux deux fils, alors, ils épousent, après un certain temps, ils épousent deux femmes moabites. Le malheur poursuit hélas cette famille lorsqu'après une dizaine d'années, les deux fils d'Elimelec décèdent également. Alors Naomi se sent maintenant bien seule dans ce pays étranger. Elle décide de retourner à Bethléem dans son pays. Alors je trouve qu'elle fait preuve de beaucoup de courage et de générosité. Parce qu'à ce moment-là, elle insiste auprès de ses deux belles-filles, ce sont Ruth et Orpa, elle insiste auprès de ses deux belles-filles pour qu'elles restent dans leur pays. Parce qu'on peut comprendre que Naomi ne veut pas imposer à ses belles-filles ce statut d'émigrée qu'elle-même a de la peine à supporter à Moab, et qu'elle-même ne supporte plus puisqu'elle veut rentrer dans son pays. Alors, Orpa se laisse convaincre, elle reste en Moab. Ruth, au contraire, ne veut pas laisser Naomi, sa belle-mère, partir seule et elle décide de l'accompagner dans son voyage de retour. Arrivée à Bethléem, Ruth va glaner pour assurer la subsistance du ménage. Elle se fait remarquer comme une femme vertueuse, mais une femme travailleuse. Et le propriétaire du champ où elle se rend pour glaner est frappé par son ardeur au travail. Il donne alors l'ordre à ses ouvriers de la favoriser, de lui laisser quelques gerbes ou quelques éléments de la moisson qui auraient été normalement récoltés. Alors, lorsque Ruth rentre à la maison, Naomi s'étonne qu'elle ait une telle récolte opulente, mais alors elle demande à Ruth où elle a glané, et puis lorsque Naomi apprend que le champ où elle a glané est la propriété de Boaz, alors elle discerne la fidélité et la bonté de l'Éternel, parce qu'Elimelech, son mari, était un parent de Boaz. Alors, de ce fait, la loi est comme ça, c'est que Boaz a un droit de rachat sur les biens d'Elimelech. Qui dit rachat dit aussi propriété sur les femmes de la famille. Mais il faut encore... oui, et puis qui dit rachat dit aussi, pour une femme seule, la protection et la sécurité retrouvées. Mais il faut encore que celui qui a ce droit de rachat veuille bien en faire usage. Alors voilà, nous sommes à la fin du deuxième chapitre, et le troisième chapitre que nous allons lire nous apprend la suite de cette histoire.
Alors je vais lire le début du chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. » Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. »
Alors elle descendit à l'air. Donc Ruth descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit les pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, la servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus de ta faveur, en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché les jeunes gens pour Zourich. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit. Et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin.
Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. »
Nous voulons encore prier. Dieu notre Père, nous croyons que ta parole est la vérité. Et nous te prions maintenant pour que ton esprit vienne nous donner nous affermir cette conviction dans notre esprit et que cette parole maintenant nous fasse du bien à tous, qu'elle nous rejoigne chacun dans nos situations. Bénis maintenant, Seigneur, particulièrement Roger, qui a la responsabilité de nous transmettre ta parole. Et nous te remercions par avance au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Alors, merci pour le résumé qui nous remet un peu dans le bain. Histoire ancienne, vieillissante. Ça me rappelle la remarque d'un penseur chrétien, C.S. Lewis, qui dit « Attention aujourd'hui de notre arrogance chronologique, comme il le dit, qu'aujourd'hui on sait mieux qu'hier. » Et en abordant cette question d'une histoire très ancienne, écoutons ce que le Seigneur peut avoir à nous dire aujourd'hui. Je propose comme titre ce qui est donc en arrière-fond dans ce livre de Ruth, quel avenir pour la famille d'Elimelech? Lui, il est décédé, ses 2 fils sont décédés. Quel avenir pour la famille d'Elimelech? Je vous rappelle, comme ça a été dit, que Ruth a pu jouir de la faveur de Boaz qui a veillé sur elle pendant tout ce temps de la moisson. Et c'est comme ça que le chapitre 2 s'est terminé. Mais maintenant, en fait, l'entrée de la récolte, est-ce que ce ne serait pas le moment de se relâcher un peu? Après tout, c'est l'été. Est-ce que c'est le moment pour Boaz de jouir de ses faveurs? Il faut dire que ce plan de Naomi est plutôt risqué. Lave-toi, mets tes beaux habits ou ton grand habit, parfume-toi et vas-y sur l'air. Voilà, on a vu ce plan. Ce n'est pas le genre de recommandation qu'on fera à nos filles lors de la fête des vendanges, en tout cas pas à Neuchâtel, à Genève peut-être c'est différent. Il faut dire qu'à l'époque, les mariages étaient arrangés, sous-entendus par les parents bien sûr, et Naomi désire assumer sa responsabilité de belle-mère dans ce cas, envers Ruth. Mais si les mariages arrangés étaient à l'ordre du jour, on peut se demander s'il n'y avait pas de manière plus prudente de s'y prendre que d'interpeller de cette manière ce célibataire bon vivant. Inconscience de la part de Naomi, même si pour une veuve, même 2 à l'époque, il avait probablement pas beaucoup d'options dans la vie. Inconscience ou confiance? Confiance dans ces deux personnages, Boaz et Ruth, dans leur force de caractère. Confiance dans les deux. Car si les convictions concernant les limitations à respecter ne sont pas partagées par les deux sur la route des fréquentations, si l'un appuie sur l'accélérateur, l'autre sur le frein, vous imaginez un peu le parcours et les dégâts en cours de route. Noémie était inconsciente ou confiante? Et pour nous, parents d'aujourd'hui, concernant les fréquentations de nos enfants, confiants, inconscients, une affaire risquée de s'y mêler, en tout cas, dilemme. Et si nous, les parents, choisissions de démontrer la confiance et de la communiquer à nos enfants. Et si vous, les jeunes, peut-être pas forcément votre réponse sera pas comme le verset 5 que je vous rappelle, « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Mais peut-être conscient qu'il y a des enjeux très importants concernant votre avenir. Et les parents, les conseils des parents ne sont pas forcément toujours d'une époque révolue concernant les limites à respecter avant le mariage. En tout cas, on peut dire que c'est une trajectoire qui est compliquée pour nous tous. Ruth, qui n'a pas les moyens que la reine Esther aurait par la suite, pour faire un traitement de beauté, sort néanmoins de la salle de bain, met son habit et la voilà partie pour l'air à la rencontre de Boaz. Naomi la regarde sortir en souci, les mamans, ou en paix. Voilà pour le plan de Noémie. Et maintenant, la rencontre avec Boaz. Pendant ce temps, Boaz a bien mangé, verset 7, et a bien bu. Dans tous les cas, il se couche bien content. Là-bas, à l'extrémité de ce tas de gerbes, sans savoir qu'il était observé. Il est profondément endormi, comme seulement les hommes savent le faire. Ce qui permet à Ruth de mettre en œuvre ce plan osé. Et puis, j'aimerais relever plusieurs choses étonnantes qui vont arriver. Réveillée en plein milieu de la nuit, Boaz s'exclame « Que l'Éternel te bénisse, ma fille. » Je ne sais pas comment vous réagissez quand votre fille rentre en plein milieu de la nuit et vous réveille, mais voilà déjà quelque chose d'étonnant. Ce n'est pas sa fille, mais peut-être il y a une question d'âge aussi qui est relevée ici. Boaz, ensuite, qui a tout de suite saisi le sens de la demande de Ruth, va réagir comment? La tirer sous sa couverture. Je me rappelle quand j'étais avec OM, mais ça remonte d'une autre époque, on disait en tout cas, ne vous mettez pas sous la même couverture pour éviter la tentation. Disons-le tout de suite que c'est pas à cause de son âge qui fait que Boaz réagit avec respect. L'expérience et le téléjournal nous apprend que bien des hommes de tous les âges ne se privent pas de profiter de leur position de pouvoir. Mais voilà un homme qui a des convictions et la volonté de les traduire en actes, même au milieu de la nuit, même après un verre ou deux. Invraisemblable, ridicule. Finalement, qu'est-ce que ça peut faire? Ou manière d'honorer le Dieu dont il invoque la bénédiction. Que pour lui, ces choses ne seront pas finalement indifférentes. En tout cas, Boaz annonce pour nous tous le changement de comportement possible dans une famille. Vous vous souvenez peut-être du nom de sa maman. Vous l'avez dans la généalogie en début du Nouveau Testament de Jésus. Il s'agit de Rahab. Vous vous souvenez de son arrière-plan à elle, prostituée. Mais elle avait rencontré le Dieu unique, avec qui elle entrait en relation par une alliance unique. Elle a eu un tout nouveau départ et est devenue ainsi témoin d'une relation nouvelle, possible, exclusive, celle-là. Je me rappelle, je peux le dire, elle n'est pas là, Lydie n'avait pas encore 16 ans. Et puis, un jeune s'intéressait à elle. Et puis, devant elle, lui qui connaissait mon parcours chaotique jusqu'à l'âge de 30 ans, m'a posé la question, et puis, entre 30 et 35, quand tu t'es marié, comment les choses se sont passées? Tu as eu une activité sexuelle, c'était ses termes? Je puis dire non. Aucune, il a dit. Ça valait la peine déjà de pouvoir dire vraiment aucun devant ma fille présente. La Bible m'avait convaincu, Dieu m'avait changé et donné la force d'agir autrement. Je crois que dans nos cœurs, nous reconnaissons que c'est ce que Dieu demande de nous. Aujourd'hui, comme hier. Avec son aide et son esprit, c'est possible. Et la Bible nous dit, si un juste tombe sept fois, il se relèvera. Donc si vous êtes tombé dans le domaine, ne restez surtout pas par terre. Parce que si Ruth nous apprend une chose, c'est Ruth et Naomi, c'est que le retour à Dieu est toujours possible. Voilà la rencontre dans l'air. Mais c'est pas terminé. Parce que Boaz dit en fin de compte, avec moi, tu es en sécurité. Verset 11, sois sans crainte. C'est le mot que son rédempteur prononce à Ruth. Sois sans crainte. Sans souci à lui, suite à cette rencontre qui aurait pu activer les mauvaises langues, loin de saisir l'occasion qui se présente, son désir à lui, c'est de la protéger, veiller sur sa réputation. Qu'on ne sache pas qu'une femme est venue dans l'air. Parce que là-bas, à côté, au centre commercial de Bethléem, malgré les désavantages de Ruth, elle a su gagner sur les avis au contraire. Mais Boaz savait, comme chacun d'entre nous, que c'est plus vite fait de casser une réputation que d'en construire une. En partageant une rumeur, en interprétant mal un événement, en rapportant un ragot. Jacques, l'apôtre, dans le Nouveau Testament, va nous dire, mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors, le plan de Noémie, la rencontre avec Boaz, est maintenant le Dieu qui veille. Parce que nous ne voulons pas nous arrêter sur nos lacunes que trop humains. Mais comme l'auteur, avec sensibilité, nous invite de le faire, nous levons le regard vers ce Dieu sous les ailes duquel Ruth est venue se réfugier. Finalement, dans les mêmes termes, demander que Boaz, à son tour, prend soin d'elle, le prend sous son aile, est beaucoup moins risqué que ça puisse paraître de première vue, car lui aussi se réclame de la faveur de ce même Dieu qui veille. Et Boaz veut l'honorer. Regardant à celui dont le fidèle engagement, on retrouve le terme à nouveau dans notre chapitre, bienveillance, amour, etc. Celui dont le fidèle engagement est présent partout dans ce livre, ramenant des personnes malheureuses du lieu de leur éloignement, Moab ou ailleurs, conduisant là où la provision s'annonce abondante dans la contrée de Bethléem, veillant sur l'air de Boaz, car celui qui veille sur nous ne sommeille ni dort. Sa loyauté, sa bienveillance est aussi connue comme étant contagieuse. Ni Noémie, ni Ruth n'attendaient pas autre chose d'un Boaz. Regardons en avant, on a chanté celui qui nous a rachetés. Regardons vers celui qui est le Rédempteur. Je rappelle, Rédempteur, celui qui avait le droit de sortir de la misère un autre membre de la famille qui était tombé dans la misère justement. On aurait pu dire dans notre temps de prière, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. C'est Job qui avait dit ça longtemps avant le temps de Ruth et de Boaz. Mais peut-être on peut imaginer que Boaz, à son tour, l'a dit aussi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est quelque part lui-même racheté en espérance. Et il veut refléter, selon ses possibilités, le Rédempteur qu'il attend, le Christ. À qui, dans les paroles du Nouveau Testament, nous avons été présentés, à notre Rédempteur, comme une vierge pure. Je cite l'apôtre Paul dans les 2 Corinthiens. Quel avenir pour la famille d'Élimélec? La question qui est posée par notre société aujourd'hui également est quel avenir pour la famille tout court? Et c'est l'occasion de rappeler aussi notre forum où nous désirons nous informer sur les évolutions de société pour pouvoir mieux nous situer. Ces choses que nous voyons sont d'une extrême importance. Notre chapitre se termine avec ces six, sous-entendu mesures, c'est pas spécifié, six mesures de combien? Ailleurs dans la Bible, normalement, c'est précisé. Six mesures, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à nouveau, une grande générosité est exercée. Et avec un tel Rédempteur, c'est fini les jours des mains vides pour les Noémie, pour les Ruth de ce monde. Un avenir tout autre s'annonce et devient possible. Noémie a envoyé Ruth vers son Rédempteur avec une confiance totale. À ses pieds, Ruth découvre la sécurité, la paix et un avenir inespéré. Puis, elle retourne vers sa belle-mère avec une parole donnée par un homme de valeur. Mais pour savoir comment finira cette affaire, selon les mots du dernier verset, rendez-vous le 18 mai.